Le point.
Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Strouche-Bonnard. Dans la première partie de cette émission, nous discutons de l'idéologie dans les sciences sociales, puis, dans une seconde partie, nous recevons Anne Coffinier, fondatrice de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, pour évoquer la liberté d'enseignement. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy.
Bonjour Laetitia.
Notre sujet du jour est l'université et l'idéologie. Dimanche 14 février, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, annonçait sur CNews son intention de confier au CNRS une enquête visant à distinguer les recherches militantes des recherches scientifiques dans le champ des sciences sociales qui seraient gangrénées par l'islamo-gauchisme. On connaît la suite. La conférence des présidents d'universités a exprimé sa stupeur, le CNRS a accepté de participer à cette étude mais a regretté une instrumentalisation de la science et 600 universitaires ont réclamé dans une tribune au Monde la démission de la ministre. De son côté, la gauche insoumise et écologiste s'en est donnée à cœur joie pour dénoncer les propos de la ministre. Cet épisode est l'occasion de poser une question importante qui dépasse largement la seule question de l'islamo-gauchisme. L'université française, et en particulier les sciences sociales, serait-elle gagnée par l'idéologie? Des arguments plaident en faveur de cette interprétation. Depuis quelques années, les études dites culturelles, traduction de cultural studies en anglais, sont en plein essor, notamment les études de genre et les études postcoloniales. Or, quand on s'intéresse de près à ces domaines, on se rend compte que leurs théories, notamment l'omniprésence du patriarcat, le genre comme construction sociale ou encore l'existence d'un privilège blanc, reposent sur des fondations scientifiques fragiles et ressemblent davantage à des slogans qu'à autre chose, d'autant que ces théories se retrouvent souvent chez certains militants. D'un autre côté, les sciences sociales sont depuis longtemps un laboratoire de critique sociale. Dans les années 50, les chercheurs étaient marxistes, puis ils furent postmodernistes et personne ne s'en plaignait, ou du moins, pas au niveau du gouvernement. Il faut aussi noter autre chose. Hier comme aujourd'hui, la recherche, en sociologie, en études culturelles, penche et pense plutôt à gauche. Est-ce à dire que dans les sciences humaines, il est difficile de se défaire du regard subjectif et biaisé qu'on porte sur un sujet? Ou bien, est-il possible d'établir une distinction entre une approche objective, d'une part, et d'autre part, une approche qui instrumentalise la science à des fins politiques? Et si oui, comment? Je penche pour cette deuxième exigence, même si je sais bien que le défi est grand. Car, comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais on pourrait ajouter science avec trop de conscience est ruine de la science. Alors, Peggy, je suis ravie que nous ayons cette discussion aujourd'hui, car je sais que c'est un sujet qui t'intéresse, et moi également. Je vais donc te laisser continuer cette conversation.
Bah, c'est formidable, ta modulation de Rabelais, je l'achète.
Merci. Merci beaucoup.
J'ai été assez crispée je suis toujours crispée par cette polémique sur Vidal, sur l'islamo-gauchisme et tout, parce que, comme tu l'as dit, le problème n'est évidemment pas limité à l'islamo-gauchisme dans l'université. Le problème, c'est la confusion entre idéologie et science. C'est un problème qui n'existe pas seulement en France et qui n'existe pas seulement qu'à gauche. Dans un certain nombre de disciplines, et notamment celles que tu as citées, on est visiblement plus capable de tracer la frontière entre science et idéologie, entre science et militance. Quelle est la démarche normale de la science, pour la résumer à gros traits? Donc, c'est de faire des hypothèses explicatives, donc chercher est-ce que A cause B, vérifier dans des métriques, dont les métriques ce sont des mesures quantitatives des phénomènes, que cette hypothèse est validée ou non. Et pour faire cette démarche, il faut une certaine neutralité du chercheur et une certaine aussi objectivité du chercheur. Donc voilà, ça c'est la démarche tout à fait normale en science. Et c'est une démarche en fait qui n'est plus du tout respectée par un certain nombre de disciplines et en fait de manière complètement consciente. Comme tu as dit, dans ces disciplines héritées des cultures rationalistes qui sont en fait un retour de bâton, parce que ça vient de la théorie critique de l'école de Francfort et des penseurs de la déconstruction française. Donc C'est l'idée que la science serait un discours de domination créé par l'Occident, que l'objectivité serait quelque chose d'impossible, que derrière l'objectivité, en fait, se cacherait toujours un discours de pouvoir, et le scientifique est là, c'est la base de la théorie critique, le scientifique est là pour sortir, pour exposer ce discours. Le problème qui, effectivement, est beaucoup plus large que le problème de l'islamo-gauchisme, c'est qu'en fait, c'est même pas la peine de demander aux sciences sociales d'être scientifiques, vu que l'activité scientifique elle-même est suspecte, et que le bon chercheur, c'est celui qui admet sa subjectivité, qui a un point de vue situé, donc ça c'est l'épistémologie du point de vue, et donc le chercheur construirait voilà, une sorte de glose autour de ce point de vue situé sans avoir à démontrer au sens habituel du terme qu'il a fait avancer la compréhension des faits humains ou des faits sociaux. Et là en fait c'est le premier problème effectivement que tu as dessiné, c'est que si on part du principe que c'est un prisme de recherche comme un autre, le problème que Vidal aurait, à mon sens, dû mieux poser, c'est par quoi, en fait, est-ce que ces récits justifient-ils qu'ils soient tenus à l'université, donc qu'ils soient payés par l'argent public, et en quoi ils prouvent, ils justifient qu'ils apportent des choses à la connaissance? Est-ce que ce sont des récits que se font, en fait, des communautés selon leurs propres intérêts, ou à l'inverse, est-ce que ça apporte une compréhension nouvelle qui est utile aux citoyens, à l'État, utile et surtout utile en général au corpus de la science? Et voilà, ça c'est une question qui est à la fois la plus fondamentale et qui dépasse de loin le seul petit cas particulier de l'islamo-gauchisme.
Alors je trouve que tu poses vraiment très bien le problème. C'est exactement ça l'enjeu. J'ajouterais peut-être qu'en fait, qu'il y a quelque chose d'un petit peu pervers, c'est qu'il y a un double discours. D'un côté, il y a tout ce que tu décris hein, comme cette espèce d'épistémologie subjective, cette sacralisation en fait de la subjectivité, de l'expérience, ce soupçon hein, qui est porté à l'égard de la démarche scientifique. Mais d'un autre côté, il y a aussi des chercheurs qui prétendent faire de la science, et qui pourtant ne sont pas objectifs et qui ne respectent pas hein, les règles que tu as rappelées. Ce qui m'a frappé, donc c'était la semaine dernière, en écoutant les Matins de France Culture, il y avait deux personnes qui étaient interviewées par Guillaume Herner pour parler justement de cette question d'islamo-gauchisme. Une de ces deux personnes s'appelle Sylvain Bourmeau, c'est un journaliste. Il n'arrêtait pas de parler de science. Il disait « Je suis journaliste scientifique, je suis spécialiste de sciences sociales, je m'intéresse à ce qui se passe dans ces sciences, et dans ces sciences, eh bien, il n'y a rien qui se rapproche de la militance, l'islamo-gauchisme n'existe pas. » Et j'étais vraiment frappée, en fait, qu'il invoque la science, parce que du coup, pour les gens qui l'écoutent, eh bien, ça donne l'impression que toute la sociologie, tous ces champs de recherche, évidemment, hein, il ne s'agit pas de critiquer tous les chercheurs, hein, on parle d'une grosse minorité de ceux-ci, que ces gens-là appliquent vraiment les règles de la science. Ce qui n'est pas le cas, moi, ce qui me frappe beaucoup, en fait, dans ces disciplines, notamment les études de genre ou les études postcoloniales, c'est que le point de départ est le même que le point d'arrivée. On pose une hypothèse. Alors, l'hypothèse, ça va être le patriarcat, le privilège blanc, le genre comme construction sociale, enfin, ce que je citais au début, hein, de façon un petit peu simplifiée. On mène une recherche, alors, qui est rarement quantitative, qui est souvent qualitative. On ne sait pas très bien d'ailleurs, en quoi elle est rigoureuse. Et la conclusion de la recherche, c'est que, eh bien, oui, il y a un privilège blanc. Oui, il y a construction sociale du genre et toutes ces choses. Et c'est vraiment ça que je trouve très gênant, parce que, bien sûr, on ne peut pas exiger de toutes les sciences sociales qu'elles apportent des preuves quantitatives, mais il faut au moins quand même avoir ce que moi j'appellerais la bonne foi. Alors, c'est très difficile de mesurer la bonne foi. Et c'est encore plus difficile de l'inscrire dans les politiques publiques du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, je sais bien que je fais peut-être une proposition un petit peu vague, mais je suis vraiment frappée par l'absence de bonne foi, parce qu'on peut à la fois avoir sa subjectivité, avoir des préjugés, regarder le monde d'une certaine façon, mais si on a de la bonne foi, ça veut dire qu'on accepte que si on trouve des résultats différents dans une démarche de recherche, eh bien, il faut changer ses préjugés. Il faut accorder ses conclusions à la preuve et aux découvertes qui ont été faites pendant la recherche. Et voilà, si je devais résumer le gros problème que j'ai avec ces prétendues sciences, c'est cette absence de bonne foi.
totalement. Après, pour faire peut-être une incise un peu historique, c'est une question que globalement Max Weber avait déjà posée de son temps, notamment dans Le Savant et le Politique et dans tous ses travaux sur la neutralité axiologique. Max Weber, c'est le père de la sociologie allemande, donc on va pas pouvoir l'accuser d'être anti-sociologie ou anti-sciences humaines, etc. Et il montrait justement qu'il y avait un problème justement de distinction donc du savant et du politique, pour reprendre le titre de son livre, de l'idéologie et de la science, et surtout le problème de distinction du jugement de valeur et du jugement de fait. Et il disait que c'était extrêmement difficile de ne pas avoir un rapport aux valeurs dans l'exercice des sciences humaines et sociales, parce que justement, elles se posent des questions qui sont très rapidement relatives à l'organisation de la société, à ce que devrait faire un État ou un pouvoir sur la société. Donc voilà, ce sont des questions qui sont très vite politisé et idéologisé, et c'est vrai que, comme tu dis, ce problème de fonctionnement circulaire des recherches, qui est qu'on arrive, en fait, on part d'un point A et on revient au point A, c'est complètement circulaire, tout le monde est d'accord et conscient que c'est ce gros problème-là, et donc on comprend pas où ça va, qu'est-ce que ça apporte, en fait, au corpus de la connaissance, ça rend très perplexe, quoi.
Oui, tout à fait. Et finalement, ce qu'on remarque aussi, c'est l'absence totale de volonté, en fait, de distinguer la démarche politique et la démarche savante. Car encore une fois, elles sont souvent liées, mais le travail d'un bon chercheur en sciences sociales, c'est lui-même, en fait, de passer par cet auto-examen en se disant, voilà, où s'arrête mon projet politique, où commence mon projet scientifique.
Bien sûr.
Et ce qui est très frappant aussi, c'est qu'il y a une bonne partie de ces chercheurs, hein, qui sont en fait en très, très grande majorité de gauche, qui assume au contraire la rencontre entre les deux. J'aimerais citer pour illustrer cette idée quelques phrases en fait que j'ai entendues à nouveau. C'était au matin de France Culture. C'était en 2018 et c'est Didier Ribon, un sociologue, qui était invité. Alors je ne l'ai pas seulement entendu à la radio, mais j'étais là parce que je venais faire une chronique. Et alors je dois dire que j'en suis restée bouche bée parce qu'il a dit les choses suivantes. L'émission portait sur l'engagement de l'intellectuel. Il y a un très beau texte de Simone de Beauvoir, disait-il, au milieu des années 1950, qui s'appelle « La pensée de droite aujourd'hui ». Et elle définit l'intellectuel de droite comme ne produisant pas de pensée, mais réagissant à la pensée qui est produite par les intellectuels de gauche, qui sont des gens qui sont engagés dans la critique sociale et dans la volonté de transformation sociale. Et donc, l'intellectuel de droite n'est pas seulement réactionnaire, il est surtout réactif, c'est-à-dire qu'il réagit à ce que font les autres, à ce que font les producteurs de pensée, les créateurs intellectuels, et à ce qui se passe dans la société et les mouvements sociaux. Bien, je trouve que dans ces phrases, on a tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment la définition d'un intellectuel comme quelqu'un qui fait de la critique sociale, qui est engagé, qui est, je cite Ribon, engagé dans cette volonté de transformation sociale. Or, si on pose de cette façon le travail intellectuel, eh bien forcément, on va mélanger le militantisme et la science et on va produire ce que moi j'appelle la miliscience, c'est-à-dire une sorte d'hybride, en fait, où on ne peut même plus séparer en fait la compréhension du monde du jugement sur le monde. Et finalement, c'est peut-être ça le plus inquiétant, c'est qu'il n'y ait aucun retour sur eux de ces personnes qui pensent vraiment être du bon côté, du côté du bien, et du bien à la fois d'un point de vue moral, d'un point de vue politique et d'un point de vue scientifique. Et je ne sais pas comment attaquer ce problème, parce que je crois que c'est une conviction très forte chez ce genre de chercheurs, et il ne suffit pas en fait d'essayer de la déconstruire, hein, ou de l'attaquer par des arguments. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Donc je ne sais pas ce que tu penses, hein, de ces propos-là, ou si tu les avais déjà entendus d'ailleurs.
Oh oui, je les avais déjà entendus. Et puis en plus, ils s'autocitent avec la Gasneri, avec, comment il s'appelle, Eddie Bellegueule.
Édouard Louis.
Édouard Louis, voilà. C'est pareil, c'est le gros truc circulaire avec différentes façons de le formuler. Mais en fait, je trouve ça super nounouille, quoi. Tu vois, il y a des beaux mots, c'est bien formulé, etc. Mais en fait, quand tu creuses, c'est juste, ah ben nous, on est les gentils, puis en face, ils sont les méchants, quoi. Quelle utilité, à part de renforcer, de dire, nous, on est d'un côté, et en face, les gens qui sont pas comme nous, enfin, un truc très clanique, très corporatiste, ça m'a fait penser quand tu disais qu'il n'y a pas de retour sur eux-mêmes. C'est des gens, après, je ne parle pas juste évidemment que de Ribon et ses acolytes, mais c'est un discours qu'on entend très souvent, en gros, quand on attaque ce genre de champ disciplinaires, ils vont te dire « Ah ben, nous, il y a un retour sur nous-mêmes, on est revus par les pairs, donc voilà, c'est de la science. Il y a une communauté de chercheurs qui évalue la qualité des travaux, donc c'est super. Vous ne pouvez pas dire que c'est de la science. » Et c'est drôle parce que effectivement, c'est en théorie, c'est vrai, c'est à ça que devrait servir la revue par des pairs. Et on sait très bien en fait que ça n'empêche pas, et au contraire, voilà, le corporatisme, l'orthodoxie, les comportements cliniques et tout. Et ça, je vais donner un exemple en fait qui vient des sciences entre guillemets dures, donc de la physique, qui est une discipline très mathématisée. On n'est pas du tout dans les galéjades des études culturelles et compagnie. Donc c'était la polémique qu'avait lancée Lise Molline. Au départ, elle avait fait un blog. Et ensuite, il en a fait un livre qui s'appelle « Rien ne va plus en physique, l'échec de la théorie des cordes ». Donc lui, Lise Molline, c'est un théoricien de la gravité quantique à boucle et qui s'opposait aux partisans de la théorie des cordes. Smoline, en fait, a dénoncé le fait que le principe de relecture par les pairs n'empêchait pas du tout les départements de physique les plus prestigieux. Et donc, quand on dit département de physique, c'est aussi les bourses, les doctorats, etc. d'être trustés par les partisans de la théorie des cordes elle-même. Qui, selon Smoline, n'avait aucune issue démontrable, très surcotée, etc. C'est là qu'on voit que l'argument « Ah bah, vous savez, c'est revu par les pairs » ou alors les scientifiques sont une communauté qui est capable de décider par elle-même ce qui est mieux pour eux », c'est quand même un argument très, très relatif, parce que quand on voit que ce genre de choses, voilà, peut se passer dans des sciences dures, après, je ne sais pas si on en avait parlé dans un épisode précédent, mais c'est aussi le cas en biologie, en sciences médicales, etc. Donc voilà, si on voit que ce genre de processus se passe dans les sciences dures ou naturelles ou médicales, etc., évidemment que ça se passe dans les sciences molles et les humanisées, on n'en parle même pas, quoi.
Ah, bien sûr, hein, demain, toutes les deux, nous pourrions fonder une revue et s'auto-citer, publier nos amis. enfin, et à la fin, on aurait l'impression qu'on fait de la science.
Ça se rappellerait les contrariant studies.
Exactement. Mais bien entendu, donc l'argument de l'existence de publications, de citations scientifiques ne se suffit pas à lui-même. Mais j'en reviens un petit peu à mon idée de bonne foi, qui est qu'on a beau construire tout l'appareil critique et scientifique hein, autour d'une science ou d'une pseudo-science, à la fin de la journée, on sait quand même en son fort intérieur si on fait ou non n'importe quoi. Et c'est là quand même qu'il y a aussi un problème qui ne peut pas se régler en fait simplement par le fait de dire eh bien il faut une relecture par les pairs, il faut un meilleur contrôle. En fait, c'est quelque chose peut-être même qui ne se règle pas de cette façon. Et c'est pour ça qu'à mon avis, une des pistes pour disons atténuer en fait le phénomène, ça n'est pas d'essayer de le contrôler ou de le surveiller, c'est de créer plus de pluralisme dans la recherche et dans les universités. Par exemple, hein, on pourrait imaginer de financer des bourses de thèse hein, qui soient rattachées à d'autres organismes, pas forcément à l'université. Des organismes du genre, je pense à l'Académie française, par exemple, parce que c'est une institution qui est supposée un peu plus conservatrice, parce que ce serait un moyen, en fait, de déplacer le problème en créant un peu de concurrence et d'émulation. Donc, on peut laisser les chercheurs qui font de la militance ou de la miliscience dans leur coin, si ça les amuse. Mais pour continuer à vraiment essayer de comprendre le monde et d'apporter vraiment des choses nouvelles, eh bien, essayons de construire d'autres structures, d'autres institutions. On pourrait même fonder quelque chose de nouveau, une nouvelle fondation même, qui dépendrait de l'État, qui distribuerait aussi des bourses, mais selon des critères un petit peu différents, même en choisissant des sujets, pourquoi pas ? Parce que ça, c'est quand même du ressort hein, des pouvoirs publics. Tant qu'il n'y a pas d'idéologie imposée par l'État, tant qu'il n'y a pas d'unicité hein, de programme scientifique, on peut imaginer qu'il y ait des contrepoids. Et pour moi, c'est ça l'avenir. C'est-à-dire de proposer de la vraie diversité, du vrai pluralisme intellectuel.
Le nerf de la guerre, on en revient toujours, c'est pourquoi est-ce que c'est à l'État de financer ces... l'État et donc aux citoyens et donc à la collectivité de financer ces trucs. Voilà, si on paye la recherche avec les impôts des citoyens, en fait, on est quand même, en tout cas dans une démocratie, on est quand même censé investir l'argent public dans ce que les citoyens trouvent le plus ou moins utile. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on va dans cette logique-là ? Donc, on part du principe, oui, il y a des sciences sociales qui sont toujours forcément un peu idéologiques. L'utilisation de l'argent public doit être quand même décidée par les citoyens. Donc, en fait, on en arrive à une situation que je pense assez pénible, comme tu disais, où l'État ne va pas dire aux chercheurs ce qu'ils doivent chercher. Ou alors, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait, demander aux citoyens de se prononcer sur les recherches qu'ils préfèrent voir ou non financer ? Et je pense que là aussi, on touche du doigt un assez gros problème de notre époque, qui est le divorce. Tout ce qu'on a voilà, la défiance par rapport aux experts et aux sachants, est-ce que c'est pas en fait assez simplement un divorce entre la recherche et la société. C'est documenté et redocumenté que le monde intellectuel et universitaire est décalé vers un pôle du champ politique qui est à gauche et qui ne correspond pas et plus à celui vers lequel penche aujourd'hui la société, qui vont plutôt vers le centre et la droite. Donc voilà, c'est cette tension, c'est pas très bon. Donc on a en fait l'alternative, soit l'État reprend en main et moi, c'est pas du tout quelque chose que je trouve bon, parce que ça attaque la liberté académique que certains aimeraient voir inscrite dans la Constitution. Et en fait, on en arrive à l'alternative, qui est la recherche privée. Il y a des idéologies, très bien. Il y a des désirs d'approfondir certaines choses plutôt que d'autres, ok. Simplement, il faut le financer de manière privée. La recherche a longtemps été ça. C'est même pas la peine de remonter à la Renaissance. Il y a toujours des industries et ailleurs, des fondations, des think tanks, même si c'est effectivement un peu plus répandu aux États-Unis, qui ont des chercheurs privés et qui travaillent pas plus mal que d'autres. Donc voilà, ça serait de dire, voilà, vous avez des préférences partisanes, bah vous l'assumez, c'est super, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de demander l'argent à toute une collectivité. Vous cherchez des gens au sein de cette collectivité qui sont prêts à vous financer, parce que même partagent vos opinions, vos intérêts, vos valeurs, peu importe. Mais la blague...
Je l'attendais. J'attends la suite.
Mais la blague, c'est qu'effectivement, au sein de nos chaires universitaires, en fait, le financement privé de la recherche fait en fait l'objet d'un non-consensus. Vu que le discours de gauche est très attaché au statut de fonctionnaire, à serviteur de l'État, à sa reconnaissance, etc. Donc voilà, est-ce que peut-être que cette aile-là des chercheurs sera obligée de choisir cette issue parce qu'il y a une pression citoyenne qui devient de plus en plus forte et politique, comme on le voit avec Vidal sur cette question-là? Peut-être que finalement, ils seront voilà, poussés dans le retranchement et ils verront que finalement, la recherche privée, c'est peut-être pas si pire, quoi.
Ou alors, ça va s'éteindre de soi-même, dans le sens où il y a quand même de moins en moins de financement hein, sur le long terme pour ce genre de recherche. C'est quand même les sciences dures hein, qui emportent le morceau. C'est peut-être aussi une stratégie de l'État implicite hein, pour que ces disciplines, ces départements meurent de la belle mort. C'est difficile à dire. C'est très compliqué parce que tu connais bien l'éternel débat sur la question de l'utilité de la science. Il y a beaucoup de chercheurs, y compris des chercheurs de très bonne foi qui font du très bon travail, qui refusent l'intervention du privé parce qu'ils estiment que ça empêcherait de se pencher sur des matières plus fondamentales. La question reste ouverte. Il est tout à fait possible que des fondations privées financent de la recherche fondamentale, y compris dans les sciences dures. Hein. Tout est possible. Mais c'est vrai que la solution que tu proposes, qui en effet aurait aussi ma préférence, hein, c'est-à-dire que si dans la société, il y a des gens prêts à payer pour des recherches militantes, eh bien très bien, cette solution me semble être assez peu réaliste du point de vue des intéressés, c'est-à-dire les chercheurs qui...
Du tempérament des...
qui sont très fiers de leur anticapitalisme. En tout cas, voilà, notre discussion touche à sa fin, mais c'était vraiment passionnant de pouvoir en parler avec toi. Alors, c'est le moment d'évoquer nos contrariétés du jour. La mienne, alors, elle va peut-être vous donner une impression de répétition, mais c'est comme ça, ce sont les sujets qui m'intéressent. C'est une histoire qui se passe aux États-Unis, à Smith College, dans le Massachusetts. Elle a été documentée la semaine dernière par le New York Times. L'histoire est la suivante. Une étudiante, Oumu Kamouté, qui est fille de migrants du Mali, mangeait dans une cafétéria fermée, interdite aux étudiants pendant l'été. On lui a dit qu'elle ne pouvait pas se trouver là. Et le soir même, elle a accusé plusieurs employés d'être racistes, de l'avoir visée parce qu'elle était noire. Alors, l'administration, au lieu d'essayer d'y voir clair, a été terrifiée par cet épisode, a suspendu un employé et commencé à enquêter sur d'autres, alors qu'il est assez évident qu'elle a fabulé. Alors, ce qui est assez frappant dans cette histoire et qui en rappelle une multitude d'autres, c'est que il n'y a aucune présomption d'innocence pour les personnes qui ont été accusées. Il y a quand même une forme d'instrumentalisation du racisme, c'est-à-dire que si on se fait reprocher quelque chose, mais que incidemment on est aussi noir, ça n'est pas parce qu'on est noir qu'on s'est fait reprocher quelque chose dans la grande majorité des cas. Et puis, évidemment, c'est une histoire qui a donné lieu à un certain nombre d'hypothèses de présence de racisme systémique dans l'université. Et il est quand même assez frappant qu'on parle de racisme systémique alors que c'est une université qui coûte très cher que c'est une fille de migrants d'un des pays les plus pauvres au monde, que s'il y avait vraiment du racisme systémique, je ne pense pas qu'elle aurait pu étudier dans ces conditions. Donc voilà, dans cette histoire, il y a énormément de choses différentes, on pourrait tirer plusieurs fils. Je la partage simplement avec vous et vous en tirerez ce que vous voulez, mais je suis assez choquée que ces épisodes se produisent aujourd'hui et je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux.
Ah ben effectivement, il y a plein d'exemples qui viennent à l'esprit, mais c'est pas le lieu ni le moment de tous les citer. Donc ma contrariété vient en fait d'une note qui a été révélée le 24 février et qui dit que les services spécialisés de la police, de la gendarmerie, des renseignements territoriaux et de la Miviludes font état d'une augmentation des saisines entre 2019 et 2020. Donc voilà, la Miviludes, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui a notamment reçu plus de 3000 signalements. Et avec la pandémie, c'est Marlène Schiappa qui a révélé ces choses-là, que les phénomènes d'emprise sont de plus en plus liés à la santé et au business du bien-être. Donc c'est là-dessus que l'augmentation des faits de dérives sectaires est la plus notable dans ce rapport. Qu'est-ce qui définit en fait un phénomène sectaire ? C'est l'emprise et l'isolement. Donc c'est les gens qui vont vous dire, oui, vos proches ne savent pas ce qui est bien pour vous, nous on sait, venez avec nous, coupez court avec vos proches, etc.
Et c'est... Je crois savoir où tu nous emmènes, Peggy.
C'est l'objet de la contrariété, parce que le hasard a fait que, en même moment où je prenais connaissance de cette nouvelle, j'ai écouté un podcast. Évidemment, je suis prévisible. J'ai écouté un podcast féministe, Les couilles sur la table, et qui était dédié aux fêtes de Noël. Donc, c'est voilà, j'ai du retard dans les podcasts, et c'était intitulé Guide de survie aux fêtes. Et ça expliquait comment on n'allait pas se fâcher avec nos proches, s'ils font des remarques sur le féminisme et tout, comment à peu près bien le prendre et passer une relative bonne soirée.
Mais c'est complètement auto-centré, en fait, le podcast féministe. C'est-à-dire, comment supporter le fait que les gens vont nous faire des remarques sur le fait qu'on est féministe ? Waouh !
Non, mais totalement. Mais en plus, le truc hyper drôle, c'est que c'était l'animatrice de ce podcast qui s'appelle Victoire Toyon. Elle commence à se plaindre en disant que, ah là là, c'est fou, depuis qu'elle anime le podcast, elle est plus tranquille et on n'arrête pas de lui poser plein de questions sur le féminisme et son engagement, etc. Donc c'est dingue. Alors tu t'exposes publiquement sur un sujet et ensuite les gens vont t'en parler. T'as trop difficile les interactions sociales, quoi. En fait, la logique très générale de ce podcast, c'était on va vous aider à ne pas vous isoler de votre famille, même si ça serait en fait finalement plus facile. Donc là, voilà, j'insiste, c'était pas, comment dire, l'emprise sectaire dans ce podcast n'était pas du tout évidente et voilà, elle ne disait pas du tout on va vous isoler de votre famille et tout, mais c'est en fait ce qu'on voit de plus en plus, typiquement dans les groupes Facebook hyper idéologisés, des intersectionnels, etc. Il y a plein de gens qui commentent en disant ça fait du bien de parler avec vous parce que plus personne ne me comprend dans mon entourage, voilà. Et on en revient en fait à comment est-ce que les gens s'auto-enferment dans une idéologie qui est proprement sectaire parce que c'est complètement coupé des réalités, etc. Je me demande, est-ce que Marlène Schiappa, quand elle parle des dérives sectaires, y pense ? Est-ce qu'elle pense aussi aux dérives sectaires auxquelles elle a donné du grain à moudre dans l'exercice de ses fonctions ministérielles ?
Oui, mais en fait, j'ai cru que tu allais parler de Muriel Salmona.
Ah !
Faut peut-être rappeler qui est Muriel Salmona. C'est une psychiatre qui est extrêmement engagée dans, elle, ce qu'elle estime être une lutte contre l'inceste et les violences sexuelles. Mais elle le fait d'une façon qui, je trouve, ressemble à de l'emprise. Enfin, tu la connais mieux que moi, je te laisse continuer.
Non, tout à fait. Moi, pour dire très rapidement, parce que là, on arrive au bout du bout.
On arrive au bout du rouleau.
Voilà, on est au bout du rouleau. Laissez-nous. Le problème, c'est que, pour résumer vraiment en deux coups de cuillère à peau, ce qu'elle dit sur l'amnésie traumatique, qui est que quand on est traumatisé, en fait, on se souvient pas du traumatisme et que ça peut mettre des années à remonter et, comme de par hasard, avec l'aide d'une thérapeute qui lui ressemble beaucoup et qui ressemble beaucoup...
De traumatisme dans le cas de viol. Elle parle de viol, voilà, et violence sexuelle,
voilà.
Oui.
Voilà, de viol et d'inceste quand t'es enfant. Grâce à des thérapeutes comme elle, on peut faire remonter le souvenir et c'est pour ça qu'il faut l'imprescriptibilité des crimes sexuels parce que ça peut remonter, voilà, 30 ans plus tard. Et effectivement, Schiappa est très proche de cette façon de voir les choses qui est en fait scientifiquement fausse en plus.
Et c'est sur ces mots que nous concluons cette première partie et passons à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui Anne Coffinier, fondatrice de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative. Anne Coffinier, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette émission consacrée à l'école et plus particulièrement aux écoles libres. Je vais laisser Peggy vous présenter.
Bonjour Anne Coffigné.
Bonjour Peggy.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans Les Contrariants, donc pour un entretien effectivement entièrement consacré à l'école et à votre action dans ce domaine. Donc en effet, si vous êtes une ancienne élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et de l'école nationale d'administration et que vous avez une carrière de diplomate qui a notamment été reconnue en 2008 par un prix des New European Leader, mon très bon accent anglais, décerné par le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, c'est surtout pour votre engagement pour la liberté éducative que vous vous distinguez. En plus de l'ENS et de l'ENA, vous êtes diplômée de Sciences Po, vous êtes arabisante et vous êtes titulaire d'une maîtrise en histoire. Et c'est forte de ces formations couplées avec votre expérience à l'international que vous avez pu observer les modèles éducatifs étrangers qui vous ont convaincu que les écoles libres hors contrat pourraient beaucoup apporter aux enfants et à la France. Et en ce qui me concerne, en fait, vous êtes une invitée excessivement contrariante, car je suis un pur produit de l'éducation nationale, à de très rares exceptions près, dont moi, qui n'ai pas voulu faire perdurer la malédiction, donc qui n'est ni prof, ni dans le service public. Toute ma famille est membre de l'ordre du temple scolaire, et j'ai grandi dans le culte de la fonction publique et de la diabolisation totale des écoles privées, établissements qui ont été cependant fort utiles à mes frères et sœurs, et qui, comme tant de gens de gauche aujourd'hui, vivant en banlieue, ils scolarisent avec enthousiasme leurs enfants. Donc déjà, à ce titre, la préparation de cette émission a été un bonheur, car elle a été vraiment une belle épreuve pour mes préjugés. J'arrête là, revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire à vous. En 2004, vous avez été frappé par le délitement du système éducatif français et vous avez fondé l'association Créer son école, dont vous êtes depuis la présidente et dont l'objectif est de fournir un soutien juridique et pratique aux créateurs d'écoles privées hors contrat. La diversité des enfants fait partie des fondamentaux de cette association qui encourage le pluralisme scolaire pour que tous les enfants puissent trouver des approches éducatives qui leur conviennent. Votre association est indépendante de toute formation politique, syndicale, religieuse ou professionnelle. En 2007, vous avez complété cette action avec la fondation de l'Institut libre de formation des maîtres, qui, comme son nom l'indique, est un institut libre d'enseignement supérieur qui est voué à la formation des professeurs des écoles primaires libres. En 2008, vous avez fondé, puis vous avez dirigé la Fondation pour l'école, qui est reconnue d'utilité publique et qui a comme but de contribuer à la rénovation du système éducatif français, là encore grâce à la liberté scolaire et à la création d'écoles privées hors contrat. Parmi vos chevaux de bataille, on compte la carte scolaire obligatoire dans le public et dans le privé, la pénurie de places dans les établissements sous contrat due à une limitation réglementaire étatique. Vous avez quitté cette Fondation pour l'école en 2019 et créé en 2020 la Fondation Kairos pour l'innovation éducative. Cette fondation est abritée par l'Institut de France et elle est présidée par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos. Eh bien, comme nous sommes presque arrivés au temps présent, eh bien, je laisse Laetitia débuter notre entretien en vous posant la première question.
Alors, elle sera très simple. Qu'est-ce que la Fondation Kairos et quelles sont ses principales missions ?
Alors, merci d'avoir cette présentation. Juste un petit bémol, une petite modification. Je ne suis pas titulaire d'un prix, mais c'est un programme, le programme New European Leaders.
Non, ah, d'accord.
C'est un programme du State Department, effectivement, c'est pas un prix. Et d'accord. C'était quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir, pendant 3 semaines, rencontrer absolument qui je voulais à travers tous les États-Unis. Donc, effectivement, c'était assez extraordinaire. Pour revenir à la question, la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, c'est une fondation qui a la chance de pouvoir faire tout ce qu'elle souhaite en matière éducative en France ou à l'étranger. C'est-à-dire que ses statuts sont extrêmement ouverts. Maintenant, la priorité me semble être à l'innovation, c'est-à-dire à susciter la création de nouvelles structures éducatives, à commencer par des écoles, mais aussi des collèges, des lycées, des établissements supérieurs, des établissements professionnels, et puis pourquoi pas un certain nombre d'initiatives périscolaires ou bien éducatives autres que strictement scolaires ou périscolaires. Je pense par exemple à des logiciels, à des applications qui permettent d'apprendre, d'enseigner, de partager de la connaissance sous différentes modalités. Donc en fait, à travers cette fondation Kairos, on peut faire beaucoup de choses. On s'est défini des axes de priorité. autour d'une vision. Notre vision, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'il y a une véritable crise dans la transmission de la civilisation occidentale et de la culture française. On peut dire ça pudiquement en disant que le niveau baisse. Enfin, toujours est-il que la machine à transmettre est cassée. Or, comme l'explique Hannah Arendt très simplement, bah, si l'école n'est pas conservatrice de la culture, de la civilisation, bah, elle n'est rien du tout. Donc il faut absolument restaurer cette capacité à transmettre notre culture. Alors évidemment, à l'époque du mythe de la table rase ou de la cancel culture, on ne sait plus très bien comment l'appeler, enfin en tout cas, ce n'est pas très à la mode de vouloir transmettre quoi que ce soit, n'empêche que ce n'est pas la peine d'avoir une école si elle ne transmet pas. Et pour ça, il faut en fait innover. Et c'est là que c'est un peu fou, et c'est la devise de la Fondation Kairos, c'est qu'il va falloir innover pour arriver à transmettre dans les conditions actuelles qui sont tout à fait hostiles à la transmission. Et puis il va falloir absolument transmettre notre culture si on veut innover demain, puisqu'évidemment, on ne forme pas les jeunes pour qu'ils reproduisent le passé. On les forme pour qu'ils les prennent en responsabilité et innovent et ils assument le présent pour construire l'avenir. Donc notre devise, c'est innover pour transmettre, transmettre pour innover. Et cette vision-là, qui essaie d'associer de manière décomplexée ce sens de la transmission de la culture classique, si on peut dire, avec une prise en compte des conditions sociologiques, technologiques actuelles, et la valorisation d'un sens de l'initiative et d'entreprise qui fait vraiment défaut au système français, puisqu'en France, on transmet dans une logique qui a l'air assez tournée vers la priorité du classement. On ne transmet pas tellement pour favoriser l'initiative, l'action, le risque et la créativité. Ce n'est pas une perspective tout à fait française. Alors, on va essayer, dans le cadre de Kairos, d'associer ces trois éléments qui, en général, ne sont pas associés en France. Et comment on va faire pour associer ça? Ben, on va, d'une part, soutenir des écoles qui mettent en œuvre cette vision. Et puis, comme il n'y en a pas tant que ça en France, on va créer un prix, dont la première édition sera en 2021, pour faciliter la création de ce type d'école, et en le soutenant financièrement. Et puis, à côté de ça, on a toute une activité intellectuelle, de colloques et de séminaires actions, autour de ce qu'on peut faire avec de la liberté d'enseignement pour résoudre les problèmes actuels. Alors, je donne quelques exemples. On a fait un colloque sur le séparatisme en montrant comment une école ambitieuse, libre pour transmettre la culture de manière décomplexée, exigeante et ambitieuse, était certainement le meilleur moyen de prévenir le séparatisme. Mais c'était deux jours avant l'attentat de Samuel Paty, donc ça donnait une curieuse résonance à nos travaux. Et nous avons fait un séminaire action sur l'avenir d'écoles rurales, sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir, en montrant comment aujourd'hui il peut y avoir un avenir en réalité pour l'école. On n'est pas obligé de faire un immense désert éducatif, à condition là aussi de se donner des libertés. Et puis dans quelques jours, nous organiserons un colloque universitaire de droit sur la liberté d'enseignement, puisqu'en fait, très bizarrement, c'est une thématique qui n'est pas tellement traitée au niveau académique depuis quelques temps. Il y a eu le grand moment autour des années 80 où c'était un sujet majeur, intellectuel, juridique, académique. Et puis ensuite, ce sujet s'est un petit peu dilué. Et autant il y a eu énormément d'études sur l'approche sociologique des questions éducatives, autant la question vraiment juridique des bases de la liberté d'enseignement n'a pas tellement préoccupé les chercheurs. Et donc là, on a un très beau programme pour le 9 mars à l'Institut de France avec l'ensemble des chercheurs et des universitaires, constitutionnalistes, droit public sur le sujet. Voilà en gros une petite perspective de ce que nous faisons. Et puis le dernier point, c'est une logique de bourse pour permettre à tous les enfants d'accéder aux écoles qui leur conviennent et donc pour travailler à l'égalité des chances telle que nous pensons qu'elle existe avant toute chose, c'est-à-dire avoir la possibilité d'accéder à l'école qui nous convient. Et ça passe évidemment par un système de financement et de solidarité. Donc nous créons actuellement un système de bourse pour pouvoir permettre ça dans tout type d'école libre, que ce soit professionnelle ou généraliste.
Sur la question de la liberté scolaire, comment est-ce que vous la définissez? Est-ce que c'est la même chose que l'enseignement privé ou est-ce que c'est plus large? Et est-ce qu'il y a des free schools ou des charter schools, donc c'est-à-dire des écoles publiques autonomes comme au Royaume-Uni et aux États-Unis? Est-ce qu'il y a ce genre d'école en France?
Déjà, moi aussi, je suis un pur produit d'école publique. Pourquoi je dis ça à titre préliminaire? C'est que l'idée que les écoles soient privées, ce n'est pas un objectif pour moi. Je dirais même que c'est plutôt une forme de réalisme un peu déçu que de dire, vu l'état d'école publique, vu la centralisation, le niveau de d'ossification, j'ai envie de dire, du système et de technocratie du système, ça paraît l'option la plus réaliste. Maintenant, ce n'est pas un objectif en soi que l'école soit privée, je pense pas en soi que ce soit intéressant. Maintenant, que ce soit un espace où la liberté académique, la liberté des personnes qui enseignent, qui dirigent, soit respectée, ça c'est central. Et si on avait une école publique qui respectait réellement la liberté d'enseignement de ses membres, alors on n'aurait pas besoin d'école privée. Alors, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle de liberté d'enseignement ? Est-ce qu'on parle de liberté scolaire ? Ce qui me paraît digne d'être défendu, c'est vraiment la liberté d'enseignement et qui se déploie finalement à différents niveaux, comme nous l'expliquons sur l'Observatoire de la liberté d'enseignement qui est déployé à partir de notre site Créer son école. Et donc, dans cette liberté d'enseignement, il y a les libertés, effectivement, non seulement d'instruire soi-même ses enfants ou de les faire instruire dans le cadre familial, c'est ce qu'on appelle l'instruction en famille qui fait vivement débat actuellement, mais aussi de fonder un établissement, mais aussi de choisir un établissement existant. Et aujourd'hui, l'offre peut être extrêmement variée en associant des éléments à distance, en présentiel, individualisé, collectif, français, étranger. On peut aujourd'hui se construire un véritable parcours de formation extrêmement riche et très libre. Et je pense que l'avenir est probablement une sorte de continuum où on mixerait des réalités qui aujourd'hui sont opposées ou distinguées, puisque de toute manière il y aura une pression économique qui fait qu'on ne pourra pas proposer sur tout le territoire toutes les options, toutes les possibilités. Et donc on finira assez rapidement par avoir un système d'options qui seront dématérialisées avec des cours à distance et des supports à distance. Ça paraît absolument couru d'avance. Donc cette liberté d'enseignement en France, elle se traduit effectivement par des établissements privés sous contrat, donc qui ont beaucoup de restrictions en termes de liberté, on pourrait y revenir, et des établissements libres hors contrat. Et en fait, il faut bien voir que quand vous créez une école en France, elle est juridiquement obligatoirement hors contrat. Et au bout de 5 ans, elle peut demander à passer sous contrat. Maintenant, si elle peut le demander, rien n'oblige l'État à lui accorder. Et en pratique, ça n'est pas accordé. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est très difficile de passer des classes sous contrat. Et donc, même s'il y a une volonté de contractualiser, on n'obtient pas cela de l'État. Alors, vous me demandiez s'il existait aujourd'hui en France des free schools, des academies, des charter schools, des réalités de ce type qu'on rencontre dans le milieu anglo-saxon. Réponse, non. Alors, pour répondre simplement, pour ceux peut-être qui ne sauraient pas exactement ce qu'est une charter school, par exemple, pour faire très simple, si on prend le dénominateur commun, on peut dire que c'est une école publique, au sens où elle est gratuite, où elle est contrôlée par l'État et construite sur un cahier des charges défini par l'État, mais à gestion privée, avec toutes les libertés propres à une gestion privée. Et donc ce type d'école-là n'existe pas en France, il n'y a pas d'équivalent, et on n'a pas cette chance-là, parce que je trouve que c'est une véritable chance, et ce qui fait qu'en France, on oppose en fait des choses qui sont très paradoxales comparées aux autres pays. Par exemple, nos écoles privées sous contrat, alors elles sont supposées être privées, mais enfin, les programmes sont fixés par l'éducation nationale, les professeurs sont recrutés par l'éducation nationale et dépendent de l'éducation nationale et ont un statut d'agent public. Les diplômes sont ceux de l'éducation nationale, le volume horaire, le calendrier scolaire est fixé par l'éducation nationale, les inspections et les carrières sont faites par l'éducation nationale. Bon, qu'est-ce qui reste de liberté là-dedans ? Eh bien, quelques cours qui sont liés au caractère propre, le fait que les directeurs, eux, ne sont pas du personnel de l'éducation nationale, mais et il reste surtout la capacité à trier, il faut bien dire les choses, les élèves, même s'ils ne sont pas supposés le faire, et comme il y a beaucoup de place, ils peuvent trier les élèves et considérer qu'ils prennent ceci et pas cela. Donc, est-ce que nos écoles privées sous contrat ont quelque chose de libre aujourd'hui ? C'est pas flagrant. Et surtout, il y a une culture qui s'est instaurée sur l'influence des syndicats qui régissent les professeurs de l'enseignement privé sous contrat. Donc, une culture qui ne pousse pas à utiliser les marges de manœuvre et les marges d'initiative propres au sous contrat. Ce qui fait que, par exemple, la liberté des méthodes pédagogiques, la liberté de la vision éducative, la liberté de rajouter un nombre significatif aussi de matières qui seraient donc hors contrat au sein de l'établissement sous contrat, mais enfin qui sont tout à fait prévues dans le dispositif sous contrat, et bien cette liberté-là est peu utilisée. Et en définitive, je pense que beaucoup d'écoles privées sous contrat se pensent d'abord comme associées à l'État avant de se penser comme libres. Et il me semble qu'on pourrait introduire en France, effectivement, des écoles qui auraient une véritable préoccupation sociale, donc avec un effort d'accessibilité qui serait fait soit par un système public-privé, soit par l'État, qui aurait le courage de dire que ce qui compte, c'est que toutes les écoles soient accessibles aux gens en fonction de leur choix, comme c'est le cas en Suède ou ailleurs, avec un système où l'argent suit le choix des gens. Donc on va financer l'école parce qu'elle est choisie par la personne et non pas parce qu'elle est publique ou privée. Donc si on avait un système comme ça, ça renouvellerait complètement l'égalité des chances, dont on nous parle beaucoup, mais enfin qui progresse guère. Et ça créerait une saine émulation finalement dans un système qui aujourd'hui s'essouffle, mais qui ne se renouvelle pas parce qu'il y a toute une série de rentes de situation.
Et est-ce qu'aujourd'hui n'importe qui peut créer une école? Et comment ça se passe en fait concrètement si on veut créer une école?
Alors non, c'est pas très simple de créer une école, et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait 15 ans que nous créons des formations à créer son école pour justement accompagner les créateurs d'écoles. Et c'était une formule de Jean-Michel Blanquer lorsqu'il voulait donner un tour de vis au moment de la loi Gatel en 2018 sur les écoles libres hors contrat qu'il n'aime pas beaucoup. Donc il avait une formule malheureuse et tout à fait délirante, hein, qui consistait à dire que c'était plus facile d'ouvrir une école que d'ouvrir un bureau tabac, je crois, ou un débit de boisson, je ne sais plus exactement ce qu'il avait donné comme exemple. Bon, ce n'est pas facile d'ouvrir une école, c'est extrêmement contrôlé, mais j'ai envie de dire que les contrôles ne sont pas mis au bon endroit. Et je vous donne un exemple. Pour ouvrir une école, pour être directeur d'une école, il vous faut 5 ans d'expérience dans un établissement d'enseignement. Bon, on se dit, bon, c'est raisonnable, oui. Enfin, vous pouvez avoir été pion à temps partiel, et ça fera l'affaire pour être directeur. Ça, c'est la logique qui prévaut aujourd'hui. Par contre, si vous êtes, admettons, orthophoniste, admettons que vous soyez, vous dirigez un cours de soutien ou un cours par correspondance, ou que vous soyez un grand éditeur scolaire reconnu qui agit depuis 30 ans, et bien là, vous n'avez pas le droit d'ouvrir une école. Vous voyez que les critères, on peut dire qu'ils sont stricts, mais enfin, ils sont surtout à côté de la plaque en réalité. Et pour enseigner dans une école hors contrat, il faut un bac plus 2 minimum. Mais en pratique, dans le secondaire, tout le monde a beaucoup plus. Et il y a énormément de professeurs agrégés, certifiés, ou de gens qui ont un haut niveau d'études et qui font une sorte de double carrière ou de deuxième carrière dans les établissements privés hors contrat. Notamment beaucoup de gens qui viennent de l'industrie en matière scientifique, qui du coup apportent une ouverture sur les métiers, sur la recherche, sur l'innovation, qui est en général très appréciée des élèves.
On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais il y a le projet de loi confortant les principes républicains qui a été surnommé la loi sur le séparatisme, qui sera examiné au Sénat à partir du 30 mars. Et ce projet de loi comprend une disposition qui restreint l'instruction à domicile. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, cette disposition, elle fait plus que restreindre. En fait, elle interdit l'instruction à domicile, sauf une série de cas. Et à l'origine, la volonté présidentielle était d'interdire l'instruction à domicile, sauf quelques cas où, de toute manière, l'État est incapable d'assurer la scolarisation, comme certains cas, comme par exemple les enfants qui sont porteurs de handicap ou d'une maladie grave. Et ce que j'en pense, c'est que, quelle est la motivation mise en avant pour prendre cette disposition? C'est de lutter contre le séparatisme. Donc, qualificatif un peu vague qui semblerait désigner l'islamisme en réalité. Et puis ensuite, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le séparatisme. Et là, à la grande surprise générale, une des mesures phares mises en avant avec beaucoup de solennité par le président de la République lors du discours du 2 octobre au Mureaux, ça a été de dire nous allons interdire l'instruction en famille. Alors, ça a paru assez extravagant parce qu'il se trouve que l'instruction en famille a été consacrée juridiquement par Jules Ferry lui-même, par une loi de 1882, que cette loi n'a jamais été contestée en 130 ans par quelque gouvernement que ce soit, et que donc elle bénéficie, semble-t-il, hein, du statut de principe fondamental reconnu par les lois de la République, puisque c'est une loi qui date d'une période historique de la fondation de la République, qui n'a jamais été contestée et qui même a été considérée comme assez fondamentale par les pères fondateurs de la République. Donc c'est une situation un peu folle, où on a une loi portant un projet qui est de renforcer les principes républicains, qui se donne pour but finalement d'attaquer une chose qui semblait tellement évidente qu'elle a été consacrée par Jules Ferry lui-même, qui est le droit naturel des parents de faire instruction à leurs enfants ou de déléguer quelqu'un pour faire instruction à leurs enfants. Et la raison pour laquelle ça me paraît particulièrement pernicieux, outre que c'est parfaitement irréaliste, c'est que ça intervertit un principe. C'est que, normalement, les parents sont présumés capables d'instruire et d'éduquer leurs enfants. Tout le droit international, européen, français, repose sur cette présomption. De la même manière qu'un citoyen est présumé capable de voter d'une manière qui ne soit pas complètement stupide et contre-productive. Sinon, on aurait mis en place le régime censitaire ou autre chose. Eh bien, et si il s'avère que ses parents sont pris en flagrant délit d'être incapable de faire des choix sensés pour leurs enfants, alors bah, il y a tout un système d'abord de tutorat, si on peut dire, puis ensuite de substitution qui est mis en place, bien sûr. Mais on doit, tout le système français et le système démocratique repose sur la présomption de capacité des parents. Et les parents s'entourent d'un certain nombre d'autres éducateurs, comme l'école, mais il n'y a pas que l'école, hein, ça peut être le conservatoire, ça peut être des tuteurs, ça peut être des cours, professeurs, des stages et autres. Enfin, toujours est-il que les parents s'entourent de personnes plus qualifiées qu'eux, au moins dans certains domaines, pour compléter et remplacer éventuellement ce qui ne serait pas faire eux-mêmes. Et naturellement, cette délégation requiert de leur part un contrôle, c'est-à-dire que c'est les parents qui contrôlent si l'école auquel ils ont confié leur enfant et a mérité ou pas leur confiance. Ça, c'est le système classique universel sur lequel repose la totalité du droit dans tous les pays du monde. Et là, on est en train de passer à un système qui tendrait à considérer que, en fait, les parents sont potentiellement des puissances obscurantistes parce que de nature à empêcher l'émancipation des enfants, le but de l'école étant d'émanciper, on ne sait pas bien de quoi, mais enfin, il faut émanciper. Et en fait, on en revient à cette idée qui avait été exprimée très clairement par Vincent Peillon, qui était de dire que le but, en réalité, de l'école et de la morale républicaine, c'était d'arracher les enfants au déterminisme religieux, social et politique des familles. Et donc, on revient à cette idée-là, qui est une idée de type totalitaire, hein, qui a de fortes analogies avec les totalitarismes, selon laquelle, finalement, le bien supérieur de l'enfant, il est maîtrisé, il est connu, il est révélé par l'État, et les parents là-dedans, bon, sont tolérés parce que chronologiquement, il faut bien s'occuper des tout-petits enfants et qu'on ne sait pas trop comment faire. Enfin, pas plus que ça. Et ça, c'est une inversion radicale, absolue, qui sape les principes mêmes du droit, qui sape bien sûr les principes mêmes de l'autorité parentale, puisque dans ce cas, d'où vient l'autorité des parents, s'ils sont des prédateurs en puissance du point de vue des participations idéologiques, religieuses, philosophiques de leurs enfants. Cette approche-là, c'est une approche qui déstabilise la totalité de droit. Et on voit un certain nombre de signes précurseurs de cette approche, comme notamment l'affirmation croissante du droit des enfants. Alors, bien sûr, le droit des enfants, on les comprend, mais souvent, ils s'opposent au droit des parents. Et finalement, c'est l'État, et souvent le juge, qui va se retrouver, entre guillemets, l'arbitre de ces droits qui s'opposent et qu'il va falloir équilibrer. Donc là, on se retrouve, à travers cette loi qui semble anecdotique, on se retrouve vraiment au cœur d'un basculement, d'un changement absolu de paradigme sur ce qu'est un parent, ce qu'est un enfant, ce qu'est la société, ce qu'est l'État. Et c'est assez amusant au moment où justement on appelle les parents à s'impliquer plus, vous voyez, dans l'éducation des enfants, notamment à l'école publique. C'est quand même assez incroyable qu'au même moment où on leur dit qu'il faut qu'ils s'impliquent plus et que c'est certainement leur désengagement, voire leur démission qui crée les problèmes de l'école publique, eh bien à ce même moment, on explique que c'est finalement leur engagement qui pose problème et l'école publique doit récupérer l'enfant et le préserver de l'engagement excessif, finalement, j'ai envie de dire, invasif de la part de ses parents. Là, je ne sais pas si je suis claire, mais le changement de paradigme est quand même assez sidérant.
Très clair. Ça fait froid dans le dos quand même. Je n'avais pas pris toute la mesure en fait, du problème. Alors, sur un autre sujet, hein, parmi les missions de votre fondation, il y a le travail sur la présence des écoles à la campagne. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Depuis à peu près 10 ans, il y a un phénomène poignant qui est la question de la fermeture année après année d'écoles de villages ruraux. Et cette fermeture est terrible parce que quand une école ferme, en fait, c'est le village qui meurt. Et les familles jeunes s'en vont parce que c'est assez compliqué de faire 15, 20, 25 kilomètres pour mettre son enfant à l'école. Et donc, les jeunes familles s'en vont. Du coup, ça devient un village pour seniors et plus. Et puis, on se retrouve dans une situation véritablement triste de campagne qui se meurt et de dévitalisation rurale. Alors, l'État aurait pu se dire, il faut absolument garder coûte que coûte les écoles rurales parce que c'est le cœur battant de la ruralité. Mais c'est pas la logique qui a prévalu, c'est une logique budgétaire qui a prévalu, où les cartes scolaires ont été rationalisées et où les écoles ont été fermées dans le public et souvent en parallèle aussi dans le privé sous contrat, pour éviter, et ça c'est des raisons idéologiques, que les enfants ne passent de l'école publique vers l'école sous contrat. Du coup, quand ça ferme quelque part, en général, ça ferme dans le public et dans le sous-contrat en même temps. Et alors, face à cette tendance-là, bon, il y a eu des étapes intermédiaires qui ont été faites par l'État, qui sont des regroupements pédagogiques intercommunaux. Donc, en fait, concrètement, on ferme 4 écoles et puis on en laisse une. Et puis les enfants, de différentes communes, vont dans une école en faisant plus de kilomètres. Enfin, ça marche parfois, mais parfois c'est complètement inadapté ou ça fonctionne pas ou ça fait quand même des temps de trajet trop longs. Et donc, face à cette situation-là, il y a eu un certain nombre de maires ruraux, souvent de tout petits maires, hein, de maires de villages de 300 habitants, vous voyez, qui se sont dit « c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça ». Et en fait, on est allé à la rencontre de ces maires, et on a fait un séminaire action à partir de l'expérience de ces maires, et c'était des histoires, mais à pleurer, des histoires extrêmement poignantes, de maires qui ont dit « non, moi je ne laisserai pas mourir mon école, ou bien moi je rouvre mon école quoi qu'il en coûte et quoi que l'État me dise ». Et donc il y a eu deux cas de figure. En cas de figure de maires du public qui ont dit « pour sauver mon école, je dois donner une diversité pédagogique et donc je vais convertir mon école, par exemple, à du Montessori ». Et donc c'est le cas, par exemple, de Sylvie Gargovitch en Blanquefort en Briolance, par exemple, où elle a fait ça. Et puis alors du coup, il y a toute une spirale incroyable qui se met en place derrière, avec les familles qui reviennent, les artisans qui rouvrent, les constructions de lotissements qui repartent, les professions libérales qui se réinstallent. Enfin, et ça va très très vite. L'école, en fait, est le moteur d'un retour de la vie. Et puis, il y a des maires qui ont fait autrement, c'est qu'ils n'avaient plus du tout d'école publique. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement dit « on va créer une école ». Ils ont créé une école sous forme associative, ils ont facilité la création d'une école sous forme associative. Et parfois, en faisant des sacrifices importants, parce que comme le droit français est marqué par la guerre scolaire, qui est l'héritier de la guerre entre l'Église et l'État, en fait, c'est quasiment impossible de subventionner une école dans son village, quand on est maire, même si cette école vient à votre propre demande pour pallier la défaillance de l'éducation nationale qui a fermé sa propre école. En fait, vous n'avez pas le droit de le faire. Et donc, ces maires-là ont dû trouver toutes sortes de subterfuges pour faciliter la création de ces écoles en respectant le droit. Et certains, par exemple, sont allés jusqu'à donner leur solde et le solde du conseil municipal pour payer les professeurs. Et donc, il y a eu tout un système d'ingénierie qui s'est mis en place autour de maires qui sont des belles figures, j'ai envie de dire, girondines, hein, de résistance du terrain qui dit « on ne va pas mendier à l'État de nous apporter ce que dont nous avons besoin et nous allons donc le faire ». Donc, une des figures phares, c'est par exemple Gilbert Chabot qui est à Saint-Pierre-de-Frugy, Marcel Chaud à Puy-Saint-Vincent. Donc, ce sont des maires comme ça qui sont devenus des phares dans la ruralité, et donc du coup les autres maires ou les autres conseils municipaux se disent bah tiens, il y a des courageux, il y a des irréductibles gaulois quelque part qui dans leur petit village ont décidé de rouvrir une école. Et ce qui est très beau, c'est que en général, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est plus qu'un projet d'école. Souvent, c'est intégré à un projet, par exemple, d'approche écologique très poussée du village, avec du coup une cantine bio, une participation des élèves aussi à la restauration du patrimoine, à la transformation, par exemple, de toute la manière d'entretenir les espaces verts d'une manière qui soit compatible avec les exigences environnementales, etc. Et donc, souvent, c'est un projet d'ensemble. C'est un projet de conversion, quasiment, de mode de vie, de recréer du lien, etc. Et donc, on a pu faire ce séminaire action. Et puis, l'association Créer son école, qui est donc le partenaire de la Fondation Kairos, a mis en place un système d'accompagnement et de mise en réseau de tous ces maires qui créent des écoles pour sauver leur village et relancer leur village et casser cette espèce de cercle mortel qui fait que l'école ferme, la vie se retire, et puis ensuite, il n'y a pas rien à faire, plus personne ne veut s'installer, et puis c'est mieux. Donc ça, ça a été quand même un grand moment à la Fondation Kairos, parce que ce qu'on pensait impossible, on a pu montrer par A plus B que c'était possible et que c'était reproductible, et qu'en fait, ça allait se reproduire à travers la France, un peu partout, pour qu'il y ait un avenir, finalement, à notre ruralité.
En France, la réglementation étatique empêche la libre création d'écoles privées. Comment et pourquoi ? Et faudrait-il libérer l'école en supprimant cette réglementation ?
Alors, elle n'empêche pas la création d'écoles. On ne peut pas dire ça. Par contre, elle empêche le fait que des maires demandeurs de ces créations d'écoles puissent les subventionner. Elle empêche les subventionnements par les collectivités locales, comme si c'était une espèce de péché pas possible que de faciliter le développement d'une école libre, associative, ou qui est pourtant tout à fait portée, désirée, au service de la collectivité et de la commune. Donc ça, c'est l'état du droit. Par exemple, je vous donne un cas très précis. Vous avez plus d'école. En fait, les enfants de votre village vont aller dans d'autres villages. Du coup, vous allez payer un forfait communal aux communes d'à côté. Et le moindre petit village de 300, 400 habitants, il se retrouve rapidement à payer 30, 40 000 euros de forfait communal aux communes avoisinantes. Et évidemment, il se dit, mais avec 30, 40 000 euros, j'ai largement de quoi payer un professeur à classe unique pour faire tourner mon école dans mon propre village. C'est évident, c'est le budget qu'il faut pour lancer une école à classe unique. Et donc c'est là qu'on se dit, il y a quelque chose de fou. Au nom d'une idéologie qui correspond à une guerre scolaire complètement désuète, on empêche en fait une commune de se doter de son école associative en la gérant elle-même, en étant très investie et en créant tout le lien qui pourrait en découler, puisqu'elle ne va pas pouvoir la subventionner. Alors, il y a quand même toutes sortes de solutions possibles, mais ça demande énormément d'inventivité, de savoir-faire, etc. Donc, on pourrait évidemment déjà changer la règle de l'interdiction de subventionner des écoles libres lorsque, par exemple, l'école libre se crée pour apporter une solution quand l'école publique a fermé. Ça paraîtrait quand même assez logique. Et la deuxième chose qu'on pourrait aussi faire, c'est faciliter les créations d'écoles en donnant des possibilités d'alternatives à ce critère de 5 ans d'expérience dans un établissement d'enseignement, en considérant que d'autres profils sont tout à fait intéressants. Et là, je me tourne vers ce qui se passe, par exemple, en Grande-Bretagne, que Laetitia Strauss-Bonnard connaît très bien. Il y a des profils très différents de gens qui créent des écoles, et on considère, avec même le rôle des sponsors, hein, qui sont très, très particuliers en Grande-Bretagne, et on considère que c'est évidemment inspirant, que c'est une chance incroyable, que ça met une énergie, que ça met une vision, que ça rend possible aussi des formes d'école pas si scolaires que ça, j'ai envie de dire. Quand vous voyez les témoignages des gens, combien de gens en France sont cassés par l'école, combien de gens en France ont dû finalement se construire malgré un sentiment de nullité, d'insuffisance, d'échec qui leur a été inculqué depuis la tendre enfance à l'école. C'est aussi parce que les profils qui créent les écoles et qui les portent sont des profils qui sont tous un petit peu sur le même modèle. Le contexte français de l'école, c'est un contexte, si on fait de la sociologie rapide, on dira d'abord c'est un contexte fonctionnarisé. Ce sont des gens qui, en général, fréquentent beaucoup d'autres professeurs, voire que des professeurs ou des fonctionnaires, qui sont en général très éloignés de toute forme de création d'entreprise ou de gestion ou d'initiative ou de privé. Et c'est aussi un univers très féminin, parce que la profession d'enseignante, c'est extraordinairement féminisé. Donc c'est un climat qui est particulier. Et ce climat particulier, il ne convient pas à tous les gens qui vont passer par l'école. Et si on valorise la création d'écoles fondée par des gens assez substantiellement différents, eh bien, on peut pousser à la réussite des profils tout à fait variés et qui, naturellement, ont droit à l'existence et puis dont la France a besoin. Je prends un exemple dans le supérieur, par exemple, l'école 42. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, l'école 42, elle a quand même un concept extrêmement détonnant par rapport à ce qu'est une école de préparation au métier d'informaticien. Et c'est clair que jamais un professeur de l'éducation nationale formé exclusivement dans le creuset de l'éducation nationale et entouré d'un univers finalement assez éloigné de ce qu'est une start-up et les réalités de croissance du propre à l'informatique, jamais un profil comme ça n'aurait créé un concept aussi disruptif pour parler franglais que celui de l'école 42. Et donc je crois que la France devrait avoir cette humilité de dire qu'on a besoin de types d'écoles qui correspondent à autre chose que l'école qu'on a toujours connue en France et qui est conçue d'abord par des profils qui sont des profils très standardisés sociologiquement en réalité.
Alors pour terminer, une question qu'on aurait pu aussi tout aussi bien vous poser au début, finalement quelle est la mission de l'école ? Est-ce que c'est instruire ? Est-ce que c'est préparer un métier ? Est-ce que c'est réduire les inégalités ? Est-ce que c'est former le futur citoyen ? Ou est-ce que c'est encore autre chose ? Ou est-ce que c'est tout ça à la fois ?
On lui confie trop de missions à la fois, et elle en meurt. Et s'il y a bien un document qui reflète cet excès de missions cumulées, c'est le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce socle que l'école est supposée remplir, eh bien, il est tellement boursouflé, il est tellement infatué, toute la connaissance s'y précipite d'une manière à la fois jargonnante et infatuée. Et on se dit, malheureux enfants, comment ils arriveraient à savoir toutes ces choses-là formulées de telle manière ? Donc, en fait, L'école est devenue une espèce de yaka faucon de la société qui se dit « il faudrait que si, il faudrait que l'école apprenne à ci, à là et le reste ». Donc forcément, les professeurs sont écrasés, ils courent partout pour essayer de faire un programme qui ne peut pas se boucler, et évidemment, ça, on court à l'échec. Alors, pourquoi aussi on court à l'échec? Parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas posé la question de la finalité de l'école, on n'ose pas se la poser, probablement parce qu'on sait qu'on ne va pas être d'accord du tout. Et donc, on définit les objectifs de l'école par rapport à des objectifs qui sont des objectifs intermédiaires et certainement pas des objectifs finaux. Par exemple, on dira l'autonomie. L'enfant, il faut qu'il soit autonome. Oui, mais l'autonomie, pourquoi faire, par rapport à qui et dans quel but? Bon, on dira aussi qu'il faut qu'il s'émancipe. Très bien, mais il s'émancipe de quoi? De sa famille, de l'erreur, de la religion, de la paresse, du péché originel, de quoi? Donc, et on voit très bien que, bah oui, forcément, avant qu'on se mette d'accord là-dessus, les poules auront des dents. On n'est plus du tout dans une société unanimiste, et donc on est dans une société où en réalité on est d'accord sur rien. Et l'école, elle doit se développer avec une société qui n'est plus d'accord sur grand-chose, et qui a plus tellement l'habitude de se poser la question des finalités de ce qu'elle fait, et donc forcément ça marche pas. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il faut former des citoyens, mais la première manière de former des citoyens, c'est de former des gens qui ont appris l'habitude d'exercer leur capacité de jugement. Et ça passe déjà par des gens qui savent lire, comprendre ce qu'ils lisent, analyser, prendre du recul critique sur ce qu'ils lisent. Ça passe déjà par ça. Ça passe déjà par un niveau de culture pour mettre en perspective historique, pour voir, pour dire tiens, ça fait écho à telle période. Donc avant d'être un citoyen, il faut déjà être un homme cultivé. Il faut déjà être un homme habitué à exercer son jugement critique. Il faut aussi avoir pris l'habitude de défendre seul contre tous et donc de ne pas chercher forcément à aller dans le goût habituel, mais de fonder en raison ses positions. Donc tout ça, ça nécessite finalement un travail ascétique assez loin de débats démagogiques, comme on peut faire aujourd'hui pour former le sens citoyen des enfants. Ça passe plutôt par un travail assez ascétique de maîtrise du langage, d'étude de ce qui a pu se faire préalablement, et des grands débats et des grands mythes, et finalement des grandes situations types qui s'est retrouvées dans l'Antiquité, dans la littérature, dans l'histoire, etc. Donc il me semble qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop omnubilé par la dimension citoyenne de l'objectif de l'école et qu'on la rate précisément en s'obsédant par cette dimension, alors qu'elle est importante. Mais c'est comme une sorte de corollaire d'externalité positive d'une autre réalité supérieure qui est celle de la formation de la capacité de jugement. Et je dirais que ce type d'obsession qui finalement est contre-productive me fait penser à une autre obsession contre-productive qui est celle de l'égalité des chances. On n'a jamais tant parlé d'égalité des chances qu'en France. La France est obsédée par l'idée d'assurer l'égalité des chances à travers son école. Et en réalité, la France est le pays de l'OCDE dont l'école produit les effets les plus inégalitaires sur la société. Donc plus on s'obsède par une chose et moins on la construit. Il me semble qu'il faudrait revenir à un petit peu de simplicité et de confiance aussi en la nature humaine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose bien la maîtrise de la langue française, la logique, et on donne le goût du travail et de la curiosité intellectuelle aux enfants, bon, bah, le reste se met en place tout seul, ils sauront très bien utiliser leur cervelle pour être de bons citoyens, engagés et mobilisés dans la société.
Bah Anne Coffinier, merci. C'était un entretien et un état des lieux aussi édifiant que déprimant.
Ah non, pas déprimant. Non, on fait rien de
déprimant. Oui, non, mais on s'entend. Juste une petite blague pour terminer en préparant cette émission. Et comme j'étais chargée de votre présentation, j'ai vu que vous vous définissiez comme une anarchiste de droite. Et un de mes représentants préférés de l'anarchisme de droite, c'est Jean-Yann, et notamment dans ses personnages, dans Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil, ou Les Chinois à Paris. Et il avait cette phrase, la mission de l'école, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à lire, à écrire, à compter, et à investir le plus intelligemment possible son RMI. Et après, après vous avoir écouté, il est évident que vous faites mentir ce sarcasme, au moins sur la dernière partie. Merci encore.
Anne Coffinier, merci d'avoir rejoint Les Contrariantes et rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain numéro.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts.
Le